Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le nouveau système de retraite pour tous les jeunes qui entrent sur le marché du travail dès 2022. En 2025, ce sont les plus de 50 ans qui vont y passer et tous devront travailler plus longtemps. Premier détail de la réforme en exclusivité sur France Inter avant l'annonce officielle de midi. On verra ce qu'en dit votre invité à 8h20, Nicolas.
L'économiste Daniel Cohen, directeur du département d'économie de l'École normale supérieure, au micro d'Inter dans une bonne vingtaine de minutes. Appelez-nous 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
Sans attendre les annonces d'Édouard Philippe, les syndicats appellent déjà à redescendre dans la rue mardi prochain. Et puis la situation ne s'arrange guère. À la SNCF et à la RATP, on tentera de se rendre du nord au sud-ouest de Paris dans ce journal. Au sommaire aussi, Alger atone avant la présidentielle demain. Les Républicains face à leurs brebis égarées chez Marion Maréchal Le Pen. Des canetons jetés vivants à la poubelle ou bien broyés à un jour. L214 vous souhaite bon appétit avec sa nouvelle vidéo dans un élevage de canards à foie gras. Et le dernier, Terrence Malick au cinéma. Le réalisateur met son mysticisme au service d'une histoire vraie de résistance au nazisme.
France Inter.
Qui, quand, comment ? Trois questions fondamentales et trois réponses attendues à midi. Après 18 mois de concertation et d'atermoiement, une semaine de grève dans les transports et deux journées de mobilisation dans la rue. Atterrissage chaotique pour le commandant Édouard Philippe aux commandes de cette réforme des retraites dont vous nous révélez, bonjour Cyril Gradiani,
bonjour,
dont vous nous révélez les arbitrages 4 heures avant leur annonce par le Premier ministre.
Et la principale mesure, la bascule, la fameuse bascule ne se fera pas pour la génération 1963, la réforme sera mise en œuvre pour la génération 1975, donc pour ceux qui auront 50 ans en 2025. C'était évoqué depuis hier, ça a été acté cette nuit par Emmanuel Macron qui a rassemblé jusque très tard dans la nuit les ministres impliqués, les cadres de la majorité. Pour les régimes spéciaux, ce sera la génération 1985 qui sera concernée. En revanche, les jeunes de 18 ans, eux, entreront dans le nouveau système à compter du 1er janvier 2022, dans le but, raconte un ténor du gouvernement, de rendre la réforme, je cite, irréversible. C'est également en 2022 que sera enclenchée la retraite à taux plein minimum à 1000 euros. Certaines catégories auront plusieurs années pour rebâtir leur carrière, précise un des participants. Il s'agit notamment des enseignants, des personnels soignants et des policiers.
Et quid, Cyril, de l'âge légal de départ en retraite ? Est-ce que ça change ?
Alors, dans ce nouveau système de retraite, l'âge légal ne sera pas bougé, dévoile un des convives, mais les personnes seront incitées à travailler plus. Il y aura un âge pivot à 64 ans d'ici 2027, avec montée en charge à partir de 2022. Devant ses ministres, Emmanuel Macron a tenu à résumer le sens profond d'une réforme qu'il juge juste et historique. Le président nous a expliqué, raconte un participant, qu'il fallait redonner de la vraie solidarité là où, dans les faits, le corporatif l'avait emporté. Fermez les guillemets.
Cyril Gradiani pour le contenu de cette réforme dévoilée tout à l'heure et qui ne va sans doute pas satisfaire l'intersyndicale FO-CGT solidaire dans la rue hier mais plus faiblement que jeudi dernier qui appelle sans attendre à une nouvelle journée d'action nationale mardi prochain et à des actions locales dès demain. Objectif sans concession, le retrait de la réforme et pour rajouter de la pression, les syndicats de police appellent leurs adhérents à se rendre au Conseil économique, social et environnemental à midi pour assister à la révélation du projet. Pas touche au régime spécial de la police, est un préalable, explique Sébastien Tillet d'unité SGPFO.
Changer le contrat en cours de route, manu militari, soi-disant pour aligner effectivement notre profession aux autres professions ou à d'autres professions, c'est tout juste pas concevable. On a un système de retraite qui nous permet d'avoir des bonifications en termes d'annuités pour le départ à la retraite, mais ces annuités ne sont pas gratuites puisqu'elles sont mises en place en échange de surcotisations que nous payons depuis 1948, date à laquelle les policiers nationaux ont perdu sur l'ensemble du territoire leur droit de grève. On a également un système de calcul de la retraite sur les 6 derniers mois. On a fait beaucoup de sacrifices, on a eu des grosses manifestations particulièrement violentes qui nous ont beaucoup impactés, que ce soit la semaine, le soir ou même le week-end, tout ça, ça se paye.
Voilà pour les arguments des policiers au micro de Christophe Vincent. Sur le front des transports, c'est à peine mieux aujourd'hui qu'hier à la SNCF avec un TGV et un intercité sur 4. Toujours un transilien sur 5 et un tiers des TER assurés. Pas de changement à la RATP à Paris avec 10 lignes de métro fermées. Bref, il est toujours aussi difficile ce matin de se déplacer en Ile-de-France. Thibault Lefèvre, vous en témoignez. Bonjour.
Oui, bonjour Florence.
Thibault, vous êtes parti de la porte d'Aubervilliers vers 6h ce matin, direction porte de Saint-Cloud. Il y a une heure, dans le journal de 7h, vous étiez dans le bus du côté de la porte de Clichy. Où en êtes-vous une heure plus tard?
Eh bien, Florence, je viens d'arriver. Après plus d'une heure de bus, 22 arrêts depuis la mairie d'Aubervilliers, parcouru à vitesse d'escargot pour cause de bouchons. Le bus était tout simplement bondé, il y avait de la buée sur les vitres, une odeur de chien mouillé avec des usagers souvent trempés après avoir attendu de très longues minutes sous la pluie. La meilleure option consistait finalement à partir très tôt ce matin. C'est ce qu'a fait Hélène. Smartphone dans la main droite, parapluie à gauche. Elle est aide-soignante dans un EHPAD à Bondy en Seine-Saint-Denis. Elle commençait ce matin à 7h30 et elle est partie à 3h de chez elle à Stain. Trois bus, dont un bus de nuit, beaucoup d'attentes sous les abris pour finalement arriver à l'heure. Il faut donc fabriquer des itinéraires en bus pour pallier le manque de train. De mon côté, eh bien, je vais essayer désormais de prendre le tramway, le T3B. L'application RATP, que je ne quitte pas des yeux, annonce 2 tramways sur 3. Je vous avoue que je n'y crois pas beaucoup, car depuis ce matin, 6h, les prévisions et l'évaluation des temps de trajet ne sont pas très fiables.
Eh bien, Thibault Lefebvre, merci. Depuis 2h, avec les galériens du matin dans Paris, la RATP a déjà prévenu que le trafic devrait rester perturbé demain. Et Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, annonce à l'instant qu'elle fait affréter 220 bus et cars de compagnies privées dès aujourd'hui pour transporter 25 000 Français vers leur lieu de travail, donc à partir d'aujourd'hui et tout le long de cette grève jusqu'à la fin de cette grève. Dans ces conditions difficiles de respirer à plein poumon sur les grands axes de circulation depuis lundi, saturés par les bouchons, il y en avait encore plus de 300 km il y a une heure. Mais au fait, quelles sont les villes les plus vertueuses en temps normal? À 100 jours des municipales, le réseau Action Climat, Greenpeace et l'UNICEF publient leur palmarès des grandes villes qui ont pris les meilleures mesures pour lutter contre la pollution liée au trafic. En bas du classement, Marseille. En haut, Paris, Strasbourg et Grenoble, Sandy Dauphin.
Aucune ville n'est exemplaire d'après ce rapport, mais certaines s'en sortent mieux que d'autres parce qu'elles ont mis en place des restrictions de circulation pour les voitures les plus polluantes, des pistes cyclables ou encore des aides financières pour des transports plus verts. Les grandes villes de France ont été passées au crible sur la base de 17 critères. Lorella et Limousin de l'association Réseau Action Climat.
En première place, on a Paris, puis Grenoble et Strasbourg. Ensuite, on a tout un groupe de villes qui sont encore trop timides pour la réduction de la place de la voiture individuelle et le développement des alternatives. C'est dans l'ordre Lyon, Nantes, Bordeaux et Lille qui sont ex aequo, et Rennes puis Toulouse. Et enfin, il y a des agglomérations qui ont vraiment accumulé du retard en matière de mobilité durable. C'est le cas de Montpellier, Nice et Marseille.
Le rapport évalue aussi les mesures spécifiques prises pour protéger les enfants de la pollution automobile. Malgré quelques expérimentations intéressantes, le bilan est insuffisant d'après Jody Sauret d'UNICEF.
Peu de villes se sont saisies des outils qu'elles pourraient utiliser pour mieux protéger les enfants, typiquement les rues scolaires, c'est-à-dire la fermeture des rues autour des écoles et des crèches à l'heure d'entrée et de sortie des écoles. Ça va être le cas de Nantes, de Strasbourg, de Grenoble. En revanche, on n'observe pas de généralisation dans ce type de dispositif.
Avec ce rapport, les trois associations veulent faire pression sur les candidats aux municipales pour faire de la pollution de l'air un thème central.
Paris, la bonne élève, Marseille, la cancre, les villes de France face à la pollution. Détail à lire sur franceinter.fr.
Il est 8h09, Florence, à Alger, la Blanche. Les bureaux de vote ne seront sans doute pas noirs de monde demain.
Élection présidentielle 8 mois après la chute de Bouteflika, mais les Algériens n'en veulent pas. Ils le disent toutes les semaines dans la rue. Pour eux, cette élection est prématurée. C'est une pantomime de démocratie avec 5 candidats issus du système Bouteflika. On s'attend demain à une abstention massive. Bonjour Mathilde Dehimi, vous êtes notre envoyée spéciale à Alger. Et Mathilde, vous nous dites qu'on n'a pas l'impression que la ville s'apprête à voter.
Non, certes, la campagne officielle est terminée et les candidats ne peuvent plus s'exprimer, notamment dans les médias. Mais ici, c'est vrai, dans le centre d'Alger, on ne trouve pas trace d'un scrutin imminent. Les panneaux électoraux sont vides ou les affiches arrachées. Et les candidats ont fait très peu de meetings, en fait, souvent sous protection de la police, Florence.
Et pourtant, Mathilde, les autorités militaires, nous dites-vous, ont tenté de donner des gages aux manifestants.
Oui, après un report faute de candidats en juillet, 5 donc ont été retenus par la toute nouvelle autorité nationale indépendante des élections. Ils ont pu débattre pour la première fois à la télévision dans un format très régulé. Le vice-président de cette autorité des élections nous a assuré que tout était fait pour éviter les fraudes et que pour une fois, on ne connaissait pas, dit-il, le favori à l'avance. Pas sûr que les opposants au système en soient convaincus, eux qui ont encore manifesté très massivement hier, carton rouge à la main. Ils appellent au boycott, considèrent que les candidats, dont deux anciens premiers ministres, Ali Benflis et Abdelmadjid Tebboune, font partie du système. Les arrestations, elles se multiplient, militants, journalistes, 140 d'après le décompte d'un collectif. Un an de prison ferme, par exemple, encore hier, pour le délégué de la Ligue des droits de l'homme, d'Oran. La justice qui solde aussi à vitesse grand V les années Bouteflika. Hier, deux anciens premiers ministres, jusqu'alors intouchables, ont été condamnés à 12 et 15 ans de prison dans une affaire de corruption. Un simple réajustement dans la lutte des clans, rétorquent les partisans du mouvement pacifiste Irak.
Mathilde de Imi avec Arthur Gerbeau, envoyé spécial de France Inter en Algérie. Fariba Adelka et Roland Marchal, deux chercheurs français détenus depuis le mois de juin en Iran, arrêtés pour espionnage et atteinte à la sécurité nationale. Emmanuel Macron appelle pour la première fois publiquement à leur libération sans délai dans un tweet envoyé hier soir, journée internationale des droits de l'homme. Ce soir, à partir de 19h45, toutes les cloches des églises de Strasbourg vont sonner à l'heure de l'attentat qui a endeuillé la ville il y a tout juste un an. Un homme qui avait prêté allégeance à Daesh avait tué 5 personnes au couteau et au revolver. Plusieurs cérémonies d'hommage auront lieu dans la journée. Les habitants de Strasbourg sont invités à mettre des bougies à leurs fenêtres ce soir. Peut-on prôner l'union des droites et rester chez les Républicains ? Question à trancher dans la soirée par le parti de Christian Jacob. Il s'apprête vraisemblablement à exclure un de ses militants, le jeune Éric Tenier, proche de Marion Maréchal Le Pen. Sanction qui ne fait pas l'unanimité, Cécilia Arbonin.
Exclure un militant pour ses idées, ça ne tient pas la route, selon le député de l'Ain, Xavier Breton.
Penser que nous, les Républicains, on va pouvoir tout seul reconstituer une force majoritaire, non, on ne va pas y arriver tout seul. Il faut qu'on sorte de nos murs et tout ça, ça se fait en discutant avec ceux qui sont autour de nous.
Avec ironie, le sénateur du Val-d'Oise, Sébastien Meurant, se demande s'il ne sera pas le prochain sur la liste des bannis de son parti, car au mois de juin dernier, comme d'autres parlementaires LR, il était à la table de Marion Maréchal.
Oui, j'ai mangé avec elle. J'ai mangé avec beaucoup d'autres personnes, y compris des affreux communistes. Pour moi, c'est quand même plus grave que de manger avec Marion Maréchal, qui est charmante.
C'est une erreur pour moi d'avoir lancé cette procédure d'exclusion. C'est une vraie erreur politique et ça, c'est inquiétant.
Imperturbable, le secrétaire général des Républicains, Aurélien Pradier, ne reviendra pas sur sa décision.
La droite républicaine, aujourd'hui, elle n'a pas vocation à être ni l'arrière-boutique de la Macronie, ni l'arrière-boutique du Rassemblement National. On va faire en sorte que ce garçon puisse retrouver son chemin avec Marion Maréchal Le Pen. Nous n'avons pas à garder avec nous quelqu'un qui est dans une opération de sabotage.
Le député du Lot est mandaté par le président des Républicains, le chiracien Christian Jacob, pour faire appliquer une consigne chère à son mentor. On ne discute pas avec l'extrême droite.
Nouvelle sortie au tribunal pour Patrick Balkany. 6 mois après avoir été condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale, le maire de Levallois-Perret va de nouveau plaider sa cause en appel avec son épouse Isabelle. La différence cette fois, c'est que c'est un prisonnier qui va comparaître devant la cour d'appel de Paris. Décidément, l'association L214 a le sens du timing, qui publie juste avant les fêtes des images chocs tournées dans un élevage de canards à foie gras. Le domaine de la Pérouse, c'est une exploitation rattachée au lycée agricole de Périgueux, dans lequel des milliers de canetons vivants étaient encore récemment jetés à la poubelle. Yann Gallic.
Le domaine de la Pérouse a été plusieurs fois récompensé pour la qualité de ses produits, notamment son foie gras qui a obtenu cette année une médaille d'or au concours général agricole. Mais l'association L214 révèle l'envers du décor à travers cette vidéo où l'on voit des canetons jetés vivants dans des poubelles où ils agonisent.
Les canetons femelles sont éliminés et tués normalement par broyage.
Sébastien Arsac est le cofondateur de L214.
Au domaine de la Pérouse, les canetons femelles sont jetés à la poubelle vivants et meurent du coup de faim ou sur le poids des autres, asphyxiés. On est au-delà en fait, de tout ce qu'on peut imaginer.
Le lycée agricole de Périgueux vient d'investir près de 100 000 euros pour moderniser ses installations. Depuis un mois, il possède une machine pour broyer les canetons femelles qui ne sont pas commercialisés, explique François Hérault, le directeur de l'exploitation.
C'est des machines coûteuses. La taille de notre activité ne justifiait pas cet équipement. Nous étions un petit peu en retard. Nous avons régularisé cette situation et aujourd'hui, nous sommes complètement en règle. Nous essayons en permanence d'améliorer nos pratiques pour les rendre plus acceptables. Cette phase de destruction, d'euthanasie des animaux d'un jour, elle n'est pas glorieuse, on n'en est pas fier. Mais aujourd'hui, on ne sait pas trop faire autrement.
Le 25 novembre dernier, les installations du lycée agricole de Périgueux ont été contrôlées comme chaque année par les services vétérinaires qui ont rendu un avis favorable sur les conditions d'abattage.
Et bon appétit, merci Yann Gallic. Paris réussi pour Lyon à Leipzig hier soir. L'OL qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après un match nul de partout. De cette soirée, on retiendra aussi la victoire du Barça qui a enterré l'Inter Milan 2-1, dont un but signé Ansu Fati, le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il a 17 ans. Enfin, son cinéma est parfois impénétrable. Terrence Malick et sa passion mystique pour les plans larges et les paysages. Il prend encore son temps dans Une vie cachée, son dernier film en salle aujourd'hui, presque 3 heures. Eva Bétan, dans la vie vraie d'un Autrichien qui s'est insurgé contre le nazisme.
C'est l'histoire d'un homme qui dit non. Et quel non ? Un fermier autrichien qui refuse de porter les armes, de faire allégeance à Hitler, un homme simple qui dit non simplement. C'est au croisement de l'éthique et de la politique que se situe Terrence Malick, qui revient à un cinéma comportant un récit. Après quelques films qui s'étaient affranchis de ses codes, il retrouve aussi le souffle de ses grands films. Il s'appuie sur la splendeur de ses images pour montrer un paradis perdu et un enfer choisi par un homme au nom d'une morale intérieure. Un fermier, donc pas un militant politique, un homme follement heureux avec sa famille, vivant en symbiose avec la nature. Peut-être est-ce cette harmonie avec le monde qui lui a fait comprendre que le nazisme a porté le chaos, qui a forgé sa droiture. Il n'argumente pas, il ne prêche pas, il refuse, et son refus par sa radicalité nous interroge. Le bien est le seul vrai mystère, nous dit magnifiquement Terrence Malick, et c'est ce mystère qui rend le monde vivable, hier comme aujourd'hui. Le risque pour nous est bien moins grand à dire non quand l'intolérance monte.
Une vie cachée, voilà, Eva Bétan a adoré et vous le conseille.
Nicolas. Merci Florence Paracuelos.